Nous continuons dans Genèse chapitre 1 et je suis arrivé au verset 6. Nous avions vu comment Dieu avait créé toute chose de rien par sa parole et que la parole c'est Christ, la lumière c'est Christ. Et là nous arrivons au deuxième jour, juste après la lumière, et c'est verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Je m'arrête là dans la lecture, mais nous irons plus loin. Et il est question donc au début des eaux. Il y a des eaux. Et c'est Pierre dans son épître qui dit que la terre fut tirée au moyen de l'eau. Et l'eau est très très présente dans l'univers. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, ce que les scientifiques ont découvert, c'est que l'eau liquide, sous sa forme liquide, n'est présente que sur Terre. Dans l'espace, il y a de l'eau gazeuse et de l'eau glacée, mais il n'y a pas d'eau liquide. Il n'y a que sur la Terre, et parce que les conditions sur la Terre sont uniques dans l'univers pour qu'il y ait la vie, et pour que l'être humain en particulier. Et ce qu'on voit dans ce chapitre 1, ce récit de la création, c'est que Dieu forme une planète, c'est comme s'il faisait une maison, une chambre pour son bébé, qui est l'être humain, et il fait quelque chose de magnifique, par amour, il fait quelque chose de bon, et tout est pensé, tout est calculé, à la perfection dans la justice et la sagesse de Dieu. L'eau est absolument nécessaire à la vie. Et là, on voit donc qu'au début, il y avait trois éléments. Il y avait de l'eau au-dessus, il y avait une étendue que Dieu a créée, il a créé une sorte d'étendue qu'il appelle le ciel, et il y a de l'eau en dessous de l'étendue. Cette étendue, nous verrons, s'appelle en hébreu « rakia », et c'est vraiment une étendue, c'est-à-dire c'est un espace. C'est le ciel, en fait, l'atmosphère. Et il y a donc de l'eau en dessous de l'atmosphère, l'atmosphère et de l'eau au-dessus. Et de cette eau en dessous, Dieu va tirer la terre. Curieusement, la terre va être tirée de l'eau, et parce qu'on l'appelle la terre. La terre, ça veut dire, c'est justement terrestre, c'est pas l'eau. Eh bien, il y a énormément d'eau dans la terre. Déjà, 70% de la superficie terrestre est occupée par les océans. 70% de la surface de la Terre, c'est de l'eau. Sans parler de la profondeur après, hein, et du volume. Dans un adulte, il y a combien de pourcentage d'eau dans un être humain ? 60%, bravo, vous connaissez bien vos chiffres. Mais chez un bébé, ça va jusqu'à 78%. 80% d'eau. Donc, si on n'avait pas d'eau, ben, il n'y aurait pas de vie, pas d'être humain. C'est pour ça que l'eau est fondamentale dans le récit de la création. Mais on a découvert récemment, par la recherche, parce qu'on s'en doutait, mais on n'en était pas sûr, qu'il y a des océans souterrains immenses. On sait qu'il y a les océans à la surface, qui peuvent aller très profondément, mais sous la croûte terrestre, il y a encore plus d'eau, probablement, qu'il y en a au-dessus. Alors, je vous lis l'article qui parle de cela, sur cette recherche. Et si l'eau sur Terre provenait d'un gigantesque réservoir souterrain ? Et c'est intéressant de mettre en parallèle avec la Bible. C'est en tout cas ce que pense une équipe de chercheurs, après avoir découvert un océan situé à plus de 700 km de profondeur, contenant près de 3 fois le volume d'eau présent sur Terre. Les scientifiques espèrent d'ailleurs que cela leur permettra de mieux comprendre le cycle de l'eau sur Terre, mais aussi comment la tectonique des plaques déplace l'eau entre la surface et ce réservoir. Réservoir gigantesque, dissimulé au cœur d'une roche bleue connue sous le nom de Ringwoodite, à 700 km de profondeur sous le manteau terrestre, c'est-à-dire dans la couche de roche brûlante. La taille impressionnante du réservoir pourrait permettre d'en savoir un peu plus sur l'origine de l'eau sur Terre. Certains géologues estiment que l'eau est arrivée sur Terre suite à l'impact de comètes. Alors c'est là qu'on s'éloigne de la Bible, parce que c'est des théories que les scientifiques essaient de mettre en place pour comprendre, mais nous savons que c'est Dieu qui a pris l'eau, et à partir de l'eau, il a fait la Terre. Mais cette découverte vient plutôt apporter du crédit à une autre théorie, selon laquelle les océans ont progressivement suinté de l'intérieur de la Terre, ce qui est plus proche de la Bible. C'est une preuve tangible que l'eau sur Terre est venue de l'intérieur, estime Steven Jacobsen de la Northwestern University dans l'Illinois en Amérique. Selon lui, cette eau cachée pourrait également servir à maintenir les océans à un certain niveau, puisqu'ils seraient connectés à cette eau souterraine, et c'est pourquoi leur taille n'a pratiquement pas changé depuis qu'on connaît ces océans. C'est-à-dire les océans ne diminuent pas, même s'il y a des sécheresses terribles, ils ont toujours le même volume. Alors dans le texte biblique, il a dit que l'étendue, il a parlé de cette étendue, dans la Septante et dans certaines Bibles, c'est traduit par firmament, le firmament. Or, le firmament n'est pas une très bonne traduction. C'est un mot qui a une idée de quelque chose de ferme, de solide. Parce que certains juifs, avant Jésus-Christ, croyaient qu'il y avait au-dessus de la terre un dôme solide qui retenait les eaux du haut et qu'on était une sorte de parapluie. Or, le mot hébreu, là, ne parle pas de dôme solide. C'est juste une étendue d'espace qui nous sépare des eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Mais c'est le mot, d'ailleurs, cette étendue est appelée, selon la Bible, verset 8, ciel. Dieu l'appela ciel, shamaim, c'est toujours le même mot, les cieux. Mais ce qui est intéressant dans la Bible, c'est qu'il y a 3 cieux. Est-ce que vous connaissez les 3 cieux dans la Bible? Le premier, l'atmosphère, donc ce qui est au-dessus de nous, dans lequel nous respirons, les oiseaux volent, au-dessus. Voilà, alors on parle de la stratosphère d'un point de vue scientifique, mais on peut juste dire l'espace intersidéral aussi. Et puis, le troisième ciel, c'est l'habitation, la demeure de Dieu. Et le troisième ciel n'est pas au-dessus de l'espace. Il n'y a pas une sorte de gradation là, parce que Dieu habite une lumière inaccessible, les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, mais il y a bien ces 3 cieux dans la Bible. Par exemple, je vous lis certains versets, vous pouvez chercher si vous voulez dans votre Bible, Hébreux 4,14. « Nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu. » Voilà, il a traversé les cieux pour aller où? À la droite du Père, dans la présence du Seigneur, dans les cieux des cieux. L'atmosphère est mentionnée, par exemple, quand il est question des oiseaux du ciel. Jésus parle des oiseaux du ciel. Mais ça, c'est l'atmosphère, le premier ciel. Mais ensuite, Jésus, en Matthieu 24-29, dit que lors de la grande tribulation, il y aura des jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Là, c'est le deuxième ciel. Les étoiles tomberont, la lune et le soleil seront obscurcis. Ce seront des phénomènes stellaires terribles. Et puis le troisième ciel, par exemple, on le trouve en 2 Corinthiens 12:2. C'est Paul qui dit « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. » Jusqu'au troisième ciel. Et il dit « Je ne sais pas si c'était dans mon corps ou pas. » Il a eu une expérience où il s'est retrouvé devant le trône de Dieu. C'est arrivé à d'autres prophètes dans l'Ancien Testament, notamment Ézéchiel qui a vu si vous lisez le début d'Ézéchiel, c'est assez bizarre, ces phénomènes, ces roues avec des yeux En fait, toute cette description, c'est le trône de Dieu. Il essaie de le décrire avec des mots humains, mais c'est indescriptible, en fait. C'est pour ça que ça a l'air tellement étrange. Mais le trône de Dieu, on le retrouve dans l'Apocalypse aussi. Et Paul, il a eu cette expérience d'aller dans la présence de Dieu. Et je pense que ça a dû changer sa vie, parce qu'après cela, il dit « Christ est ma vie, hein, la mort m'est un gain ». Plus rien sur terre ne l'intéressait vraiment, tellement il avait été frappé par cette expérience. Hébreux 8.1 dit aussi que Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. C'est pour ça que souvent pour les enfants, on représente Dieu dans les nuages. Mais Dieu n'est pas dans les nuages, il n'est même pas dans les étoiles. Il est dans le troisième ciel et ça fait penser à quoi dans le temple ? Le temple juif, le Saint des Saints, hein, c'est le lieu très saint, c'est là où Dieu se rencontrait le souverain sacrificateur une fois par an, eh bien c'est cette demeure inaccessible pour nous tant qu'on est pécheur. Mais lorsqu'on est sauvé, pardonné, justifié, eh bien on a accès à cette présence de Dieu. Au-delà du voile, dit la Bible. Il dit, dans Hébreux, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints. Donc aujourd'hui, par la prière et par la foi, nous avons accès à la présence sainte de Dieu. Par la prière, par la foi. Lorsque nous serons ressuscités, nous aurons un accès physique à la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous ne pourrions pas supporter la présence de Dieu. Nous serions, voilà, la sainteté de Dieu est insupportable pour l'homme pécheur, pour notre corps humain. Mais lorsque nous serons ressuscités, nous pourrons être face à face avec Dieu. Je pense qu'on ne réalise pas assez que dans la prière, on a cette libre entrée, qu'on peut parler au Dieu très saint. On ne réalise pas assez que Dieu nous laisse entrer, mais aussi que Dieu est saint. Des fois, on prie Dieu comme si c'était un copain. Dieu n'est pas un copain. Il habite dans le ciel, sur le trône, trois fois saint, et nous devons nous approcher de lui avec beaucoup de respect. Le premier ciel, l'atmosphère terrestre, est extraordinaire. C'est ce qui fait que la Terre est vivable. Pourquoi les autres planètes ne sont pas vivables ? On a observé de près Jupiter, Mars, etc. C'est invivable. Vous pouvez pas, y a pas d'oxygène. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère qui retient l'oxygène. Ce qui fait qu'on peut respirer l'oxygène, c'est que l'atmosphère retient tout. Sinon, tout s'en irait dans l'espace et on serait dans le vide. Et dans le vide, on peut pas, un être humain ne peut pas survivre. L'atmosphère terrestre est composée de 78% d'azote et 20% d'oxygène. S'il y avait moins de 20% d'oxygène dans l'atmosphère, on mourrait tous asphyxiés. S'il y avait plus que 20% d'oxygène, quand il y a beaucoup d'oxygène, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous le savez, l'effet chimique ? Non, ça explose. Probablement, voilà, on se consume de l'intérieur, voilà. L'oxydation, exactement. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on prend on essaie d'avoir des antioxydants. C'est l'oxygène qui nous tue tout en donnant la vie. C'est ça qui est étonnant. Mais Dieu a mis 20% d'oxygène pour que ça nous tue le moins vite possible, pour qu'on puisse vivre d'une façon extraordinaire le temps que nous avons à vivre. Tout est dosé. Même, elle nous protège des rayons mortels du soleil. Hein. Elle nous protège des rayons encore plus mortels, magnétiques, du soleil. Le soleil, non seulement nous tuerait par sa chaleur, mais nous tuerait surtout par ces rayons qui pénètrent... Voilà. C'est pour ça que les astronautes sont obligés de mettre des combinaisons extrêmement épaisses pour les protéger de ces effets néfastes du soleil. Mais nous, nous pouvons vivre sans combinaison, à peu près, sur la Terre, parce que l'atmosphère est placée là par amour de Dieu pour nous. Ce qui est extraordinaire, c'est que des milliards d'êtres vivants respirent cet oxygène, partagent cet oxygène depuis des siècles. Et nous rejetons du gaz carbonique et pourtant, nous verrons que ce gaz carbonique est utilisé et l'oxygène ne vient jamais à manquer. Concernant la météorologie, cette science récente, on s'est rendu compte que le climat obéisse à des lois très très strictes, que nous on voit des nuages, on voit des vents, on voit des tempêtes, on dit bon bah oui c'est le chaos total, oui mais en fait tout est peut être modélisé mathématiquement, il n'y a rien au hasard là, et il y a une sorte de cycle parfait, notamment le cycle des saisons. Pourquoi y a-t-il des saisons? Bien, c'est grâce à la Lune en partie, mais c'est grâce aussi à l'inclinaison de la Terre. La Terre n'est pas droite quand elle tourne. Elle est penchée de 23 degrés. Et c'est ce qui fait qu'elle est vivable. Là encore, si elle était droite, on aurait extrêmement chaud à l'équateur. Même ce serait insupportable. Et on aurait tellement froid au pôle que ce serait invivable. Il y aurait une toute petite bande vivable, et encore, je ne sais même pas. On ne peut pas savoir. Mais le fait qu'elle soit inclinée fait que les rayons du Soleil nous touchent moins fort et nous sommes protégés. Les orages. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, les orages, la voix de Dieu. Un orage développe des millions de kilowatts d'énergie. Un seul orage, un seul éclair. Et c'est Job, qui est un des plus anciens livres de la Bible, chapitre 28, verset 26, il dit « Étais-tu là quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre ?» Et effectivement, il y a une route de l'éclair et du tonnerre, je ne sais pas si vous le saviez, mais les électrons qui vont faire l'éclair se mettent en place depuis le sol et depuis le nuage, et il y a cette bande d'électrons, et au moment où ils se touchent, ça fait le flash. Mais il y a bien une route que suit l'éclair, en général vers le lieu le plus proche. Mais surtout, l'éclair joue un rôle très important dans l'équilibre de la vie terrestre. La chaleur que dégagent les orages, il y a des milliers d'orages par jour, hein, partout dans le monde, ça change l'azote de l'atmosphère en un azote qui est soluble dans l'eau, et la pluie ensuite répand cet azote sur la terre, et la terre est fertilisée par l'azote qui vient de l'atmosphère mais qui est décomposé grâce aux orages. C'est-à-dire, tout se tient, tout est pensé. Ce n'est pas qu'une chose arrive et puis il y a une autre. Non, tout est imbriqué d'une façon parfaite. C'est un Lego ou un puzzle absolument parfait. Il n'y a aucun élément de trop, aucun élément qui manque. Tout est là pour la vie. Au verset 11 et 12 de Genèse 1, nous avons lu que Dieu dit que la terre produise de l'herbe. Dieu a créé la terre, il a fait chasser l'eau pour que la terre apparaisse, le sec apparaisse, et les continents sont apparus. Et il a décidé ensuite de remplir cette terre. C'était vide, il fallait la remplir. Et il a commencé à la remplir avec la flore, les plantes, les arbres. Pourquoi? Ça sert à quoi les plantes et les arbres? C'est un rôle important pour l'atmosphère et pour les êtres vivants, la nourriture. C'est-à-dire, si on n'avait pas de plantes, de fruits, voilà. Surtout que le premier homme était végétarien et ne mangeait pas de viande, du tout. Les plantes apportent trois choses. Les fruits pour les hommes et les animaux, qui ne sont pas encore créés. De l'oxygène en recyclant le gaz carbonique que nous expirons. Ce gaz carbonique est pris par les plantes et il est recyclé en oxygène. Comment? Grâce à la photosynthèse. Voilà, il y en a qui ont fait des études, c'est bien. La photosynthèse est un procédé extraordinaire que l'homme n'a jamais réussi à reproduire jusqu'à maintenant. C'est une machine à faire de l'énergie extraordinaire à partir du soleil. C'est fantastique. Comment une plante qui n'a ni cerveau ni intelligence fait de la photosynthèse comme ça, c'est extraordinaire. Et c'est Dieu qui a tout pensé, tout mis en place. Et il a mis en place des choses qui consomment le moins possible d'énergie et qui ont un rendement extraordinaire. Par exemple, vous prenez un moteur de voiture, le rendement n'est pas très bon. Parce qu'il chauffe, il y a de la chaleur, il y a de l'essence, il y a de l'huile qui coule, il y a des frottements. Pour un litre de gasoil ou d'essence, il y a beaucoup qui est perdu dans des échauffements qui ne servent à rien, qui ne servent pas à avancer. Mais Dieu, quand il fait quelque chose, il n'y a quasiment rien qui est perdu. toute l'énergie qui est reçue est transformée quasiment à 100%. Et les hommes sont fascinés de voir ça, et pourtant, ils ne reconnaissent pas qu'il y a un créateur. C'est ça qui, pour moi, le plus grand mystère. Au verset 14 et 15, Dieu dit « Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. » Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Il les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Alors, certains sceptiques disent, oui, mais alors, voilà, il crée le soleil après les plantes. Mais les plantes, comment elles ont pu vivre sans le soleil? Voilà. Mais on a bien vu au début qu'il y avait la lumière, Dieu avait créé la lumière, il y avait une source de lumière. Et puis là, il a placer une autre source de lumière qui est le soleil pour le jour et la lune pour la nuit. La lune ne fait que réfléchir la lumière, mais elle est vraiment magnifique cette lune. D'abord parce que sur sa surface, elle a une poussière qui a un taux de réflexion de la lumière extraordinaire, beaucoup plus élevé que beaucoup de choses. C'est ce qui fait qu'elle brille, qu'elle est si lumineuse. Mais aussi, la lune, ça nous fait penser aux croyants. À celui qui croit au Seigneur. Le soleil, c'est Jésus-Christ, hein, le soleil de justice. Et il nous éclaire de sa lumière et nous sommes éclairés sur notre péché, éclairés sur les choses à faire, sur la vie. Mais nous, nous pouvons refléter la lumière de Christ, comme la lune reflète la lumière du soleil. Et nous sommes appelés à refléter cette lumière. Nous n'avons pas de justice en nous-mêmes. Nous n'avons pas d'amour tellement en nous-mêmes. Nous n'avons pas de lumière en nous-mêmes. Nous ne sommes pas des lumières, n'est-ce pas? Mais nous avons la lumière du Seigneur qui peut être reflétée. Et c'est ça notre rôle. La lune est un astre, un satellite de la Terre bien humble. Elle n'apporte pas grand-chose, mais en fait, elle apporte plus que ce qu'on imagine. Quand vous avez une nuit sans lune, c'est une nuit très sombre. Quand vous avez une nuit avec lune, comme on peut en avoir ces jours-ci, tout de suite, la nuit est éclairée. Vous vous sentez beaucoup plus paisible. Et Dieu l'a voulu comme ça. Il les a placés comme ça pour nous éclairer et nous conduire. La distance entre le soleil et la terre est idéale. Si le soleil était un peu plus proche, nous serions brûlés. Si le soleil était un peu plus loin, nous serions gelés. Beaucoup de planètes sont gelées parce qu'elles sont trop loin du Soleil. Certaines planètes ont 10 000 degrés à la surface, c'est invivable. Mars a une température qui peut être très très élevée ou très froide selon que le Soleil l'éclaire ou pas. Mais nous, avec notre atmosphère et avec la distance et avec l'inclinaison, tout est là pour que la température soit idéale. Quand il fait 25 degrés, franchement, c'est merveilleux. On peut connaître... Sans le soleil, il n'y aurait pas de vie non plus. Il n'y aurait pas d'évaporation des eaux, il n'y aurait pas de pluie, il n'y aurait pas d'atmosphère, il n'y aurait pas la lumière qui nous donne la vie. Sans lumière, l'être humain tombe malade rapidement. La lumière crée la vitamine D et toutes sortes de bienfaits pour nous. Et aussi, on s'est rendu compte que la lumière empêche la dépression et qu'on peut lutter contre les dépressions grâce à la luminothérapie, hein, qui est des séances de lumière, et que les gens dépressifs, souvent, sont trop dans les ténèbres, soit qu'ils ferment leur volet parce qu'ils veulent voir personne, soit qu'ils ont un problème aussi de cycle de lumière parce qu'ils dorment, notamment ceux qui travaillent la nuit, hein, ils ont des problèmes psychiques ou psychologiques parce que non seulement ils ne dorment pas bien, mais en plus, ils ne voient pas assez la lumière. La lumière est la vie. Notre planète tourne sur elle-même à la vitesse de 30 km par seconde. Donc elle tourne. C'est très vite, 30 km par seconde. Voilà, 600 km/h, 1600 km/h. Cette vitesse, en fait, garantit notre survie. Parce qu'elle nous permet d'être moins touchés par le soleil. 24 heures, c'est suffisant. Si les jours duraient, comme ça arrive, hein, au pôle... plusieurs mois, et encore au pôle le soleil est faible, Mais si le soleil était très fort pendant une semaine, on ne saurait plus comment faire pour s'abriter, se protéger. Mais Dieu a fait que cette vitesse nous protège. Bien sûr, autour de la Terre tourne l'atmosphère avec nous, et nous, nous sommes compris là-dedans. Donc, on ne ressent pas cette vitesse. Mais la Terre est en fait une sorte de vaisseau spatial extraordinaire qui se balade dans le système solaire à une vitesse folle, mais avec une précision de montre suisse. Où étais-tu quand je fondais la Terre, dit Dieu? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau pour la mesurer? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Oui, on n'était pas là, c'est sûr, et on ne peut que s'émerveiller. Les étoiles aussi sont magnifiques. Accrochées à la voûte céleste, elles servent de boussole aux marins, notamment celles qui forment des amas. Hein. Les Grecs leur ont donné des noms, et même bien avant les Grecs, les Arabes aussi leur ont donné des noms pour qu'on puisse les reconnaître et que le marin puisse se dire « Ah, si la Grande Ourse ou si Orion, si les Pléiades sont là, moi je dois aller dans telle direction. » Et dans l'hémisphère sud, ce n'est pas le même ciel que l'on voit. Parce que, bien sûr, c'est l'autre hémisphère. Et donc, il faut tout ça et penser par Dieu. Dieu a placé les étoiles pour nous. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Quand on regarde le ciel, quand on est en dehors de Paris, parce qu'à Paris, on ne voit pas grand-chose, ce ciel étoilé, quand on voit même la Voie lactée parfois. En Corse, c'est tellement pur qu'on peut voir les satellites qui tournent. Je pense qu'en Kabylie, ça doit être pareil, dans la montagne, hein, l'air doit être très pur. Et on voit cette voûte céleste, cette Voie lactée, et c'est un tableau, c'est un vrai tableau. Ici, on a même un ou deux tableaux, hein, des galaxies dans l'église. C'est l'œuvre d'art de Dieu. Et quand on regarde ça, on pense quand même à Dieu, ça c'est sûr, même si on est le plus athée des athées. « Louez-le, soleil et lune, dit le psalmiste. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, qui loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. » C'est intéressant que la Bible parle des lois qui gouvernent les astres. Les astres sont extrêmement, là aussi, dirigés par des lois, la façon dont ils tournent, comme des pendules. Et c'est ce qui a permis aux hommes depuis la nuit des temps de calculer les éclipses, de connaître la date exacte des éclipses. On a retrouvé à Ur, hein, à Babylone, à l'époque d'Abraham, et même avant Abraham, ils avaient déjà calculé les éclipses. Ils savaient, ah oui, telle date, il va y avoir une éclipse de lune, telle date, une éclipse de soleil, parce que c'est tellement précis, ça peut se calculer. Quand il dit que les étoiles doivent louer le Seigneur, la Bible n'est pas si loin de la réalité physique, parce que on sait que les étoiles émettent une onde. Chaque étoile a une onde musicale que les astronomes peuvent entendre, si on peut dire. On ne peut pas l'entendre avec une oreille, mais avec les télescopes, les radiotélescopes, ils peuvent justement entendre ce genre de son ou d'onde. Mais la Bible nous garde bien d'adorer les astres. Et malheureusement, lorsque l'homme s'est éloigné de Dieu, hein, à partir du chapitre 3 de la Genèse, il a commencé à adorer la créature au lieu du Créateur. Les Incas sont héritiers, hein, de ces adorateurs du soleil, qui, au lieu d'adorer Dieu, ils ont adoré le soleil. Ils ont adoré les étoiles. Et l'astrologie, c'est cette façon d'adorer les étoiles. Même si les astrologues aujourd'hui disent « Mais non, moi, j'adore pas les étoiles », ce qu'ils prêtent aux étoiles, leur influence sur notre psychisme ou sur notre vie, est directement inspiré des religions païennes. Hein. Directement. Nous ne sommes pas pour l'astrologie, nous croyons qu'il y a un seul créateur et que les étoiles sont juste des créatures de Dieu. Mais c'est vrai que le soleil nous donne la vie, la lune par les marées qu'elle produit, la lune aussi par le fait qu'elle tourne autour de la Terre donne une stabilité à la Terre. Une chose que j'avais oubliée. Et ça, c'est fondamental. Ça permet à la Terre d'être vraiment stable parce qu'elle est protégée, si on peut dire, par la Lune. Et puis, elle est protégée aussi des astéroïdes. Job 9:9. Dieu a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions du sud. Le ciel témoigne de la grandeur de Dieu. On pense que notre Voie lactée contient 100 milliards d'étoiles environ. 100 milliards dans notre Voie lactée. Et qu'il y a probablement environ 100 milliards de galaxies comme la Voie lactée. C'est-à-dire, c'est énorme. Mais on se dit, mais pourquoi Dieu a-t-il créé si grand? Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire un petit système solaire tranquille? Pourquoi avoir créé si grand? Parce que Dieu est grand. Les cieux ne peuvent pas le contenir. Et c'est à la mesure de sa grandeur. Les hommes cherchent la vie ailleurs. Hein. Ils scrutent, ils écoutent. Est-ce qu'il y a la vie ailleurs? Mais selon la Bible, la vie n'est que sur la terre. Et d'ailleurs, même mathématiquement, les chances pour qu'il y ait la vie, quelque part, la vie humaine, la vie animale, la vie des plantes, est quasiment nulle. Il faut tellement de choses ensemble qui soient parfaitement combinées qu'il y a pratiquement... Le hasard ne peut pas produire la vie, ça c'est certain. Statistiquement, c'est impossible. Et il y a un créateur intelligent et bon qui nous a fait. Ce qui est curieux, c'est que dans l'Apocalypse, il est dit que dans la Jérusalem céleste, il n'y aura ni soleil, ni lune, ni jour, ni nuit. Nous serons dans une autre dimension. On n'aura plus besoin du soleil, il n'y aura plus le jour et la nuit. Mais Dieu a voulu qu'il y ait le jour et la nuit. Dans la Bible, il parle du soir et du matin. Et c'est pour ça que chez les Juifs, on compte le jour à partir du soir. Le jour commence à 6 heures du soir et se termine le lendemain à 6 heures de l'après-midi, si on peut dire. C'est comme ça qu'ils comptent les jours. Nous, nous comptons à partir de minuit, mais pas eux, à cause de la Bible. Et Dieu remplit la terre. Il remplit la terre ensuite des animaux, selon leur espèce, dit-il. Je lis au verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, que des oiseaux volent sur terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons, les animaux vivants qui se meuvent, que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et là, on dirait que Dieu savait que le darwinisme allait venir. Parce qu'il précise à chaque fois « selon son espèce ». Sous-entendu, il y a les oiseaux, il y a les poissons, il y a les mammifères et il y a les hommes. Et chacun est selon son espèce. Et on sait maintenant par la biologie que Dieu a mis une barrière infranchissable qui s'appelle l'ADN. L'ADN, c'est ce qui nous caractérise. Il y a l'ADN humain, l'ADN animal, l'ADN des plantes. Et cet ADN ne peut pas être modifié pour changer d'espèce. On peut pas, un ADN de singe ne peut pas devenir un ADN d'être humain. Alors, les évolutionnistes disent si, par des mutations, etc. Mais ils n'ont jamais réussi à prouver une telle chose. Les mutations, en général, font plus de dégâts que de progrès. Dans le Nouveau Testament, il est dit aussi, dans 1 Corinthiens 15, « Toute chair n'est pas la même chair. Autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. » Là encore, on ne peut pas être évolutionniste et croire en la Bible. On ne peut pas être chrétien et être évolutionniste, si on peut dire. Parce que, il dit bien, la chair des hommes n'est pas celle des quadrupèdes ni des poissons. On n'est pas pareil, on est différent. Dieu nous a créés tous différents. Il a créé les plantes, il a créé les poissons, les animaux, et chacun selon son espèce. Bien sûr, il y a une adaptation des espèces, une sélection. Et c'est ça que Darwin a commencé par voir. Sur l'île où il a été. Il a vu des oiseaux qui s'adaptaient à leur milieu, qui changeaient la forme de leur bec, etc. Et il s'est dit, mais alors si on pousse ça très loin, peut-être qu'ils pourraient changer d'espèce. Mais c'est là où il s'est trompé, il ne connaissait pas l'ADN, il ne connaissait pas la biologie moderne, évidemment. On ne peut pas changer d'espèce. L'oiseau reste un oiseau. Même si c'est, la couleur de ses plumes change, même si la forme de ses plumes change, c'est un oiseau. Cette idée qu'on peut passer du poisson à sortir de l'eau et ensuite devenir un mammifère, ensuite un singe, ensuite un homme, est contraire à la science. Parce que l'ADN empêche, est une barrière infranchissable. Dans la Bible, Et d'ailleurs, c'est intéressant, le mot animal en français. Ça vient du latin. Anima, ça veut dire quoi, anima en latin? Voilà, la vie, vivant. Ou ça veut dire aussi l'âme. Hein? L'âme, c'est pareil. En fait, l'âme, ça veut dire vivant aussi. Et donc, en hébreu, là, dans le texte, les animaux sont des nefesh chay, c'est-à-dire des âmes vivantes. Les nefesh, c'est justement ce qu'on a traduit par animal. Mais en fait, c'est un être vivant. Et chay, ça veut dire vivant. Donc, un être vivant qui vit. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est l'hébreu. Et l'être humain aussi a une âme, nefesh, c'est le même mot. Donc, on pourrait dire, ah, on est comme les animaux. On est comme les animaux, sauf qu'on n'est pas pareil. Parce que si on regarde maintenant Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il ne dit pas ça pour les animaux, il ne dit pas ça pour les plantes, il n'y a que pour l'homme que Dieu souffle. Et le souffle, c'est le même mot que esprit. L'esprit de Dieu nous a donné une vie particulière. Et en Genèse 1, il est dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il n'est pas dit cela de l'animal. En fait, ce qu'on voit dans Genèse 1, c'est que Dieu a créé cet univers. Il y a placé la terre. Il a protégé la terre. Il a entouré de choses magnifiques. Et puis, il a commencé à remplir la terre avec les plantes, avec l'eau, avec les animaux. Et à la toute fin, au sixième jour, il a créé l'homme. Et il a placé sur cette terre qui était prête. Tout était prêt. C'est pour ça que l'homme n'est pas juste un animal. Dieu a dit, tu vas régner, tu vas dominer sur les animaux. L'homme était capable de donner des noms aux animaux. Les animaux ne donnent pas de noms. On leur donne des noms, mais eux, ils ne se donnent pas de noms. Les différences entre l'homme et l'animal sont nombreuses, mais on peut les voir dans la conscience du bien et du mal, par exemple. L'animal n'a pas conscience de péché, ne fait pas de péché. L'animal suit son instinct, suit ses réflexes. Un animal peut faire des bêtises, il peut renverser des choses, mais ce n'est pas parce qu'il est méchant. Un animal peut mordre, mais ce n'est pas parce qu'il est fondamentalement mauvais. Un chien va vous mordre parce qu'il se sent menacé. Ou parce qu'il a un problème psychique, hein, ça, et les chiens ont des problèmes psychiques aussi. Mais il n'est pas pécheur. Un animal n'est pas pécheur, n'a pas besoin de rédemption. Sans parler des plantes. L'homme, lui, est pécheur. L'homme a une conscience du bien et du mal. L'homme a une notion de justice. Il peut penser à l'éternité, il peut penser à la mort. Les animaux ne pensent pas à la mort. Les animaux voient la mort et ils ont peur au moment du danger. Mais les animaux ne réfléchissent pas en disant « Ah, combien d'années me reste-t-il à vivre ?» Non, les animaux vivent avec leur instinct. Les animaux n'ont pas la capacité d'abstraire leurs pensées. Nous, nous avons une pensée abstraite, on peut philosopher, on peut réfléchir. L'animal, il vit, c'est tout. Et lorsque l'Éternel a voulu trouver une aide semblable à l'homme, hein, quand il a créé Adam, il n'a pas trouvé chez les animaux d'aide semblable. Et c'est pour ça qu'il a créé la femme. Dans Genèse 1, c'est intéressant, il dit qu'il créa l'homme mâle et femelle. Dès le départ, l'homme était créé pour avoir une progéniture des enfants. Il était créé mâle et femelle. Et ce n'est pas parce que la femme est créée après Adam qu'elle est inférieure ou qu'elle est moins importante. Dieu avait créé l'homme avec déjà ses deux composantes. On peut dire peut-être que Dieu a un côté aussi mâle et femelle. Dieu est pour nous un père, mais il agit aussi comme une mère. Et Dieu a tout dans son amour pour nous. Il a toutes les qualités de l'homme et de la femme. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va faire, on va suivre la Bible féministe, je ne sais pas si vous connaissez, au lieu de dire « lui » en parlant de Dieu ou « il », c'est une Bible qui dit « il ou elle » à chaque fois. Donc « il ou elle a créé la terre ». Dieu a créé, et puis à chaque fois il y a un petit « e » féminin pour qu'on puisse penser que Dieu pouvait être une femme. Dieu n'est ni un homme ni une femme, mais c'est vrai qu'il a tous les aspects de l'être humain nous sommes créés à son image. Nous avons, comme Dieu, une intelligence. Comme Dieu, nous avons une volonté. Comme Dieu, nous avons une conscience. Comme Dieu, nous sommes capables d'aimer. Comme Dieu, nous avons une idée de la justice. Malheureusement, quand l'homme s'est éloigné de Dieu, toutes ces choses magnifiques ont été dégradées, corrompues. Et ce qui était magnifique est devenu atroce. La capacité, l'intelligence de l'homme est devenue centrée sur le mal. Au lieu de penser aux choses bonnes, à comment bénir la terre, comment s'occuper des animaux, l'homme a commencé à vouloir les torturer et torturer ses autres êtres humains et tuer. Et nous verrons ça dans la suite. Dieu a pourvu à toute chose pour nous. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. S'il a créé la terre pour nous, est-ce qu'il ne peut pas pourvoir à nos besoins maintenant? S'il a donné une épouse à Adam, est-ce qu'il ne peut pas nous donner une épouse, un mari? Et aussi, surtout, est-ce qu'il, si Dieu est amour, est-ce qu'il ne peut pas combler notre cœur de son amour? On ne devrait pas vivre en manque d'amour, on devrait toujours être comblé par l'Esprit de Dieu. Alors remercions le Seigneur pour cette création extraordinaire. Ne nous laissons pas perturber par les théories diverses des hommes, scientifiques ou pas. Gardons la foi dans la parole de Dieu. Genèse n'est pas très précis, il ne donne pas tous les détails. Et on ne peut pas tout expliquer, fort heureusement, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est de nous dire qu'il y a un Créateur qui nous aime et à qui on doit rendre grâce. Voilà.